Calade.
Ma radio.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique Reconnaître ces mots avec des mots, une rubrique animée par Christelle Rest. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors de quoi est-ce qu'on parle dans cette chronique aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un thème aussi subtil qu'universel, mais que l'on a tout, pas tout le pain, qu'on n'a pas toujours l'habitude d'explorer, c'est le regard de l'autre. Celui qu'on cherche, celui qu'on fuit parfois, celui qui nous fait grandir ou qui peut aussi nous enfermer, celui qui nous construit, qui nous déconstruit. Alors pourquoi est-ce que le regard des autres compte autant pour nous? Et surtout, que dit-il de nous? Et si derrière ce besoin de reconnaissance se cachaient de vieilles blessures, des schémas invisibles mais très puissants? Car oui, ce regard façonne notre image, mais aussi notre perception du monde. Un regard parfois nourrissant, parfois dévalorisant. Il peut être une ressource, mais aussi une source de souffrance. Eh oui, Mathieu, nous allons explorer ce thème, mais j'ai envie aujourd'hui de l'explorer sous l'angle de la thérapie des schémas.
Ok.
C'est une approche psychologique qui permet de mieux comprendre comment nos expériences passées influencent notre manière de réagir face aux autres. Plutôt que de parler uniquement de la façon dont les autres nous voient, aujourd'hui, j'avais envie de proposer de réfléchir à comment nous avons appris à nous percevoir au travers du regard de l'autre, au travers du regard de ceux qui nous jugent, qui nous félicitent.
Ouais.
Bref. Le regard de l'autre. Donc, juste un petit rappel, j'ai encore jamais vraiment abordé en chronique. Donc, la thérapie des schémas, ça a peut-être été nouveau pour certains. C'est une thérapie qui a été fondée par Jeffrey Young, qui est un Américain, psychologue, très impliqué dans la troisième vague des thérapies comportementales et cognitives. Donc, dans les années 80, il a repris d'ailleurs un outil qui existait depuis très très longtemps en psychanalyse, mais qui n'avait jamais été exploré. Donc, cet outil se concentre sur les schémas précoces inadaptés. Ce sont des croyances profondes que nous avons parfois intégrées dès l'enfance, qui peuvent nous influencer tout au long de notre vie. Donc, ces schémas se manifestent sous diverses manières, dans nos interactions sociales, en particulier dans la façon dont nous réagissons au regard des autres.
Ok, donc on aurait appris quand on est petit.
Oui, c'est une forme de. C'est notre construction.
Ouais,
c'est notre construction.
En vivant certaines situations,
ouais,
on s'est créé des schémas.
Exactement. Okay. On a nos schémas de base qui viennent aussi de nos tempéraments, qui s'installent là en fonction du tempérament, parce que lui-même est génétique. Après, donc, ces schémas de base, donc on va parler de schémas d'abandon, de rejet, etc. Et ensuite, stratégiquement, se mettent en place d'autres schémas. Et ça, bien sûr, c'est environnemental.
Ouais.
Et okay. Ça se construit tout petit et se renforce à l'enfance, à l'adolescence.
C'est, on se dit, dans ce genre de situation, quand je réagis comme ça, ça marche bien, donc je vais continuer de le faire.
Par exemple.
Okay.
Ou alors, je réagis à l'inverse de ce qu'on attend.
Okay.
Et tout ça, souvent, du regard de l'autre.
Ouais. Alors, pourquoi est-ce que le regard de l'autre, il nous touche autant? Parce que c'est ça, le fond du sujet.
Bah oui, bah, donc là, on vient juste un petit peu de l'aborder. Ça se passe dès l'enfance. On apprend qu'au travers du regard des autres, que l'on est quelqu'un, que l'on existe, qu'on a une valeur. Donc, j'existe, j'ai de la valeur, donc le regard des autres m'apporte ça,
ouais.
M'apporte cette certitude. Mais si, par exemple, les regards sont plutôt absents, critiques ou incohérents, alors on doute. On se construit donc avec un sentiment de manque, d'insécurité. On en revient toujours au lien d'attachement.
Ouais.
Hein, toujours un lien, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, à ce regard... et ce regard, surtout, on ne l'oublie jamais. C'est quelque chose qui s'imprègne en nous. Donc, on le cherche encore en étant adulte, ce regard, dans nos relations personnelles, interpersonnelles, donc aussi bien au travail, sur les réseaux sociaux. Et ça, sur les réseaux sociaux, on pourrait carrément faire une émission là-dessus.
On a besoin de se sentir valorisé.
Bien sûr.
Par le regard de l'autre.
Exactement.
Ok.
Donc... Jeffrey Young, qui est donc le fondateur de la thérapie des schémas, comme je disais tout à l'heure, a mis en lumière à quel point ces expériences précoces façonnent des croyances profondes sur nous-mêmes. C'est ce qu'il appelle des schémas précoces inadaptés. Et certains sont directement liés à notre rapport au regard d'autrui. Mmh. Alors, par exemple, si enfant on s'est senti dévalorisé ou rejeté, on peut développer un schéma de... Alors ça, c'est traduit directement en anglais, ça s'appelle défectuosité. Mmh. C'est autrement dit, en schéma, on l'a traduit plutôt... En français, ce schéma, on l'a traduit plutôt imperfection, honte. Okay. Donc c'est la conviction qu'on n'est fondamentalement pas assez bien. Et alors, chaque regard devient une menace. Et si il voyait qui je suis vraiment, et s'il me jugeait, me rejetait, est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Bref, ce sont toutes ces pensées automatiques qui se sont construites pendant mon enfance, qui vont venir à chaque fois me titiller dans ma vie, et je n'aurais pas forcément conscience. On peut aussi voir un schéma de recherche d'approbation. C'est un autre schéma de construction. On devient indépendant des autres pour savoir si ce qu'on fait, ce qu'on est, vaut quelque chose. Mmh. Donc, c'est un schéma d'approbation, un schéma de reconnaissance. On se suradapte, du coup. On en fait trop. On vit à travers ce que l'autre pense.
Ok. Donc, on a besoin d'attention en permanence.
Tout à fait. Okay. Tout à fait. Ouais. Si je prenais un autre exemple, par exemple Claire qui a 40 ans, qui est en thérapie elle-même depuis quelques mois. Donc c'est un exemple, hein, c'est pas du tout ce qu'il y a dans mon cabinet, hein, même si ça peut se rapprocher, mais bon. Je donne un exemple fictif. Donc cette jeune femme est très appréciée socialement, est toujours impeccable, mais épuisée. Par contre, ça c'est ce que je vois assez souvent dans mon expérience. Elle a grandi avec une mère très critique, qui valorisait uniquement la performance. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Claire ne peut s'empêcher de chercher la validation partout, chez qui que ce soit. Mmh. Donc, ses amis, ses collègues, son mari, même chez des inconnus, hein, ne serait-ce que je vais prendre une baguette, rien qu'avec le regard. Je cherche l'approbation, est-ce que c'est la bonne cuisson, quoi. Ouais. Et derrière son sourire, il y a toujours cette peur. Mmh. Celle de « je ne suis jamais assez bien, je ne suis jamais à la hauteur ». Et ça, c'est un schéma...
Et c'est ça qui est épuisant, du coup.
Mais complètement, complètement. Car ce regard, il peut être une ressource, bien sûr, immense. Un enfant qui apprend à jouer du piano, qui a un regard bienveillant parce qu'il fait des progrès, c'est fantastique. Mais un regard réprobateur, ça peut être complètement dévastateur. Mmh. Donc, on devient dépendant de ce regard. Mmh. On perd une forme de liberté. En tous les cas, on va perdre la liberté d'être soi. Donc ça c'est une forme de regard parce que ce regard, l'air de rien, il a un double tranchant. Donc celui qui vient nous conforter dans ce qu'on vit, et puis on a l'autre, celui qui nous apprend à nous couper du regard de l'autre. Ouais. Eh oui, parce qu'il est trop blessant ce regard. Pareil, je vais peut-être faire un petit lien vite fait avec justement le lien d'attachement évitant. Mmh. Et cette personne va donc fuir les interactions, va se méfier des compliments, refuse qu'on le voit vraiment ou qu'on voit vraiment toutes ses qualités. Bref, le regard continue d'agir à chaque fois, quoi.
Même quand on dit le regard des autres, je m'en fiche, en fait, c'est qu'on s'en est coupé parce que peut-être
ça nous a
blessé en
notre
vie. Et
Donc on s'en fiche pas tant que ça. Il est toujours là, sous-jacent, en creux, comme on dit.
Et donc, comment savoir si un schéma lié au regard des autres influence trop notre vie, si ça prend trop de place dans notre quotidien?
Alors, en effet, il y a quelques signes qui montrent que les schémas liés au regard sont devenus beaucoup trop envahissants. Par exemple, on va avoir la recherche constante de validation. Donc, si vous vous sentez obligé de recevoir l'approbation des autres, enfin, de le regard de l'autre, pour vous sentir bien, ça peut être un signe de dépendance. Ouais. Au regard extérieur, bien sûr. Une peur irrationnelle du jugement. Si vous craignez constamment que les autres vous jugent ou vous rejettent, même dans des situations qui ne justifient absolument pas cette angoisse, c'est qu'il y a une forme de dépendance. Cette sensation d'épuisement, ça c'est ce que je constate aussi de temps en temps. Être constamment en quête de l'approbation des autres peut être extrêmement fatigant, car cela pousse à vivre dans l'attente du regard d'autrui plutôt que d'être dans l'instant présent. Et ça, ça se construit depuis... tout petit, être à la recherche du regard de l'autre. On peut l'avoir aussi face à un parent rejetant. Mmh. Hein, dans, toujours dans ces liens d'attachement là. Hein. Et puis bien sûr, il va y avoir un manque de confiance en soi. Un schéma qui dévalorise peut que manifester une faible estime de soi, ce qui fait qu'on doute constamment de ses compétences et de sa valeur. Mmh. Donc si ces signes vous parlent, il peut être utile bien sûr de consulter, ou au moins de commencer à en parler à un thérapeute spécialisé ou pas, mais dans la thérapie des schémas, mais en tous les cas, travailler ses croyances.
Et ça peut se résoudre, c'est pas... Moi, la phrase qui me viendrait en tête, c'est me dire bah, « de toute façon, je suis comme ça, c'est comme ça que je fonctionne
Si ça vous dérange pas, pourquoi pas,
ouais,
mais... c'est, tout dépend, voilà, où est le curseur. Si je suis bien avec ce que je suis, j'ai pas de soucis. Ouais. Mais si je commence à en souffrir, parce qu'en effet, comme je l'ai dit, en fin de compte, je suis très épuisée, ou j'ai besoin, je m'aperçois que j'ai du mal à décider tout seul ou toute seule. Je m'aperçois que mon manque de confiance en moi régulièrement me dit « mais un peu plus confiance en toi, allez, vas-y ». Ben oui, c'est peut-être qu'en effet, il y a peut-être un problème. J'ai peut-être, en effet, faut peut-être que je m'interroge sur ce que je suis en train de vivre. Donc, bien sûr qu'on peut se réparer.
Il y a des solutions et on peut dépasser ça.
Bien sûr. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que redonner la voix à l'enfant que nous sommes, tout au fond de nous, celui qui éprouve justement cette peur. Hein, c'est de lui dire « tu es digne ». Même si personne ne te l'a jamais dit, moi je te le dis, tu es digne de vivre ce que tu vis, tu es digne de pouvoir éprouver ce que tu ressens. Donc tout ça, ça se développe dans le cadre de la thérapie des schémas, bien sûr, mais bon, il y a d'autres moyens. Hein, donc on peut faire aussi de la sophrologie, se renouer avec cet enfant intérieur. Enfin, il y a plein d'outils, en tous les cas de thérapie qui peuvent exister. Bref, on va aller dans l'axe de développer ce que moi j'appelle l'adulte sain. Cet adulte qui est bien avec lui-même, ses défauts, ses qualités, qu'il apprend à gérer et à assumer. Mmh. C'est surtout ça qui est important. Donc, et petit à petit, grâce à ça, on peut se libérer. On peut devenir quelqu'un d'autre, mais pas quelqu'un... comment dirais-je ? Quand je dis quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelqu'un qu'on va renier. Non, c'est quelqu'un de différent. C'est ce que je disais tout à l'heure, cet adulte sain, c'est celui qui se réconcilie avec lui-même. Voilà, donc c'est se voir un petit peu autrement.
Et donc on peut se libérer de l'influence du regard des autres et pas vivre toujours en se demandant qu'est-ce qu'on va penser de moi.
Mais bien sûr, heureusement. De toute façon, tout ce que je propose en général, il y a toujours une solution. Hein, donc il est toujours possible donc, de se libérer du regard de l'autre, de l'emprise même du regard de cet autre. Mmh. Même si ça demande du temps, ça demande de l'introspection et parfois à l'aide d'un thérapeute, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et dans la thérapie des schémas, justement, l'objectif, c'est de reprogrammer ces croyances profondes qui nous dicte la manière dont on doit fonctionner par rapport, bien sûr, toujours en fonction de cette perception du regard extérieur. Donc, ça passe par la réparation de l'enfant intérieur qui n'a pas toujours reçu l'attention nécessaire pour justement se valider. Donc, se libérer du regard des autres ne signifie pas devenir insensible. Comme tout à l'heure, la réflexion tout à l'heure, vous êtes, de toute façon, je m'en fiche. Non, ce n'est pas devenir insensible, mais c'est plutôt de développer une auto-validation où on apprend à se donner de la valeur de manière indépendante.
Très bien.
Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, pour conclure cette chronique, car je vois que le temps tourne, que le regard de l'autre peut nous révéler, nous élever, mais ne doit absolument pas être le miroir dans lequel on se reconnaît. C'est-à-dire que il peut être un phare, mais jamais une cage. Et pour illustrer ça, j'avais envie de citer Jean-Paul Sartre, qui dit que l'enfer, c'est les autres. Mais j'ajouterais quand même que le vrai enfer, c'est de ne voir de nous que ce que les autres nous renvoient de négatif. Alors, si aujourd'hui, vous sentez que vous vivez à travers les yeux des autres, peut-être qu'il est temps d'ouvrir les vôtres sur vous-même. Vous avez maintenant plein de pistes. Donc, bonne route et bonne recherche de vous-même, en quête de vous. Allez, à bientôt, les amis.
Merci, Christelle.
Merci, Mathieu.
Calade, ma radio.